Avant de débuter ce message ce matin de la part du Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Seigneur, nous voulons nous remettre devant toi, Seigneur. Tu sais que nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes, Seigneur. Tu sais que spirituellement, nous sommes limités. Mais par ton esprit, Seigneur, nous te demandons ce matin que tu nous éclaires, que tu éclaires ta parole pour nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions la comprendre et surtout la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Merci parce que la bonne œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur, tu vas la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et nous voulons nous attacher à toi, Seigneur, jour après jour, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que nous puissions lire ensemble dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, et nous allons lire du verset 4 au verset 36. C'est un passage un petit peu long, mais ça sera utile pour le développement de notre message. Exode 16, 4 à 36. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. » Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit, L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasirez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. » Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel avait ordonné. Demain est le jour du repos. » Le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour. » Et le peuple se reposa le septième jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau de miel. Moïse dit : « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que nos mers remplies de manne soient conservées pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron : « Prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère, et repose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les enfants mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans le pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est le dixième partie de l'épha. Voilà, c'était un peu long, je m'en excuse, mais peut-être que vous n'avez jamais lu ce passage, je ne sais pas. En tout cas, ce matin, on ne va pas rentrer dans des choses extrêmement compliquées, on va faire quelque chose de simple, on va faire une analogie. Le matin, au lever, chacun aime faire le premier repas de la journée selon ses propres besoins. Je suppose qu'on est tous pareils à ce niveau-là. On appelle ça le petit déjeuner. D'accord. Certains mangent un bon petit déjeuner avec toutes sortes de produits comme du lait, du café, du thé, des biscottes, du pain, des viennoiseries peut-être pour les plus gourmands, des œufs, du lard, etc., etc. Selon le pays également, ça peut changer. D'autres se contentent d'un petit déjeuner basique. Café, biscottes, comme moi. Tout au long de la journée, nous allons nourrir notre corps, premièrement, parce que c'est quand même pas mal agréable, et aussi, mais avant tout, parce que nous en avons besoin pour vivre. Dans nos pays occidentaux, nous avons, par la grâce de Dieu, toutes les nourritures à notre disposition. On n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Tout ce que vous voulez est à votre disposition dans divers magasins. Alors, dans ce contexte, nous viendrait-il à l'esprit de nous passer de manger malgré l'appel de notre corps ? Parce que vous savez, certaines fois, il crie fort. Pour quelques personnes, c'est le cas, mais c'est une maladie. Mais pour la majorité, nous prenons bien soin de bien nous nourrir, afin d'avoir l'énergie nécessaire, bien entendu, aux activités qui ponctuent notre journée. Et aussi, car nous y prenons, on l'a dit, pas mal de plaisir, c'est bien et c'est bon de faire un bon repas. Et on va en venir évidemment à notre analogie. Qu'en est-il de notre nourriture spirituelle ? Prenons-nous bien soin de nourrir notre âme, aussi bien que nous nourrissons notre corps. Ce matin, nous allons comparer, au travers du texte que nous venons de lire dans Exode 16, la manne, donnée par Dieu aux Israélites pendant leur pérégrination dans le désert, et notre nourriture spirituelle, qu'est la parole de Dieu. Alors, on va oublier tout ce qui, dans le passage, est relativement négatif, c'est-à-dire les murmures d'Israël, et on va plutôt s'apesantir sur la manne, ce que c'est, ce que ça représente pour le peuple d'Israël et ce que ça représente évidemment pour nous. Les Israélites, dans le contexte de notre passage, sont bien en route vers la terre promise. Eh bien, les croyants dont nous sommes sont en route depuis la terre vers le ciel également. Dieu a pourvu aux besoins en nourriture des Israélites en leur donnant la manne. Aujourd'hui, la nourriture spirituelle pour le peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le but donc de cette prédication ce matin est de nous persuader, si ce n'est déjà fait, j'espère que ça l'est, que nous devons nous nourrir régulièrement de la parole de Dieu pendant notre voyage de la terre vers le ciel. On a du temps. Utilisons-le pour nous nourrir de cette parole. Il y a au moins, dans ce texte, 3 points par lesquels la manne représente la nourriture spirituelle dont le peuple de Dieu devrait se nourrir. Le premier point, se trouve dans la façon dont elle nous parvient, dont la manne parvient à Israël et dont la parole de Dieu nous parvient. Dans la façon, en second point, dont elle devait être ramassée, cette manne. Et le troisième point, évidemment, dans son but. Quel est le but que Dieu avait en donnant la manne au peuple d'Israël? Pour commencer, on va faire un petit peu d'étymologie quand même, hein. C'est important. Le mot manne, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors ce terme vient d'un terme hébreu qui signifie ou qui traduit une exclamation. En substance, ça veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Et dans l'hébreu, c'est « man » ou. Alors, c'est ce que certainement ont dû dire les Israélites quand le matin, en sortant de leur tente, ben, ils ont vu sur la terre un genre de gelée blanche tapissant tout le tour de leur tente. Il dit « man » ou. Et de là, le mot « man », bien entendu. Donc, après ce petit intermède, maintenant vous savez ce que ça veut dire, hein. Développons donc les similitudes entre la manne et la parole de Dieu. On l'a dit tout d'abord, il y a une similitude dans la façon dont elle nous parvient. Au verset 4 de notre passage, il est dit, « L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » La manne est directement envoyée par Dieu à Israël. Alors, il n'y a pas d'intermédiaire, hein. Il n'y a pas de grossiste, il n'y a rien. C'est Dieu qui envoie la manne directement à son peuple. Évidemment, pour nous, de la même manière, la parole de Dieu vient directement de Dieu. On peut lire dans l'évangile de Jean, un passage que vous connaissez très bien, du verset 1 au verset 14. Jean 1. 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce passage de l'Écriture nous montre que non seulement Dieu a donné, a envoyé sa parole, mais que la parole de Dieu a été faite chair dans la personne de Jésus et que celui-ci a pris forme humaine afin de se faire connaître à nous. Souvenez-vous des premiers versets de la Genèse. Au verset 3 déjà, Dieu dit que la lumière soit. Au verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Au verset 9, Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Au verset 11, Dieu dit, etc., etc., jusqu'au verset 26, où Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » C'est par sa parole que Dieu a créé le monde, tel qu'il existe maintenant, et c'est par sa parole qu'il nous a créés également. La parole de Dieu, c'est Jésus, et c'est Jésus qui a tout créé. Dans Colossiens 1, 16, nous pouvons lire, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Cette parole vient directement de Dieu et en plus, elle a été faite chair. Un autre point que nous pouvons développer, c'est que la manne est donnée par Dieu pour le peuple de Dieu. La parole de Dieu est destinée de la même manière à son peuple. Nous voyons au verset 15 de notre passage, les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela ? Car ils ne savaient pas que c'était Moïse. Ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Dans 1 Corinthiens 1, verset 18, nous pouvons lire que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, vous allez me dire, la parole de Dieu s'adresse au peuple de Dieu et seuls les croyants peuvent comprendre le langage spirituel de cette parole. Car c'est le Saint-Esprit qui ouvre nos cœurs afin que nous puissions comprendre, écouter et mettre en pratique ce que Dieu veut pour nos vies. Seul le peuple de Dieu dans le désert a bénéficié de la manne pendant sa marche dans le désert. Les peuples des alentours, eux, ils n'en ont pas eu. La parole de Dieu est notre manne. Ceux qui nous entourent, soit ils sont complètement indifférents, soit la rejettent certaines fois, la discréditent certaines fois également, ou même la combattent violemment. La manne donc vient de Dieu pour son peuple. La parole de Dieu est incarnée en Jésus-Christ pour son peuple également. Le point numéro 2 que nous allons développer, c'est donc la façon dont cette manne devait être ramassée. Quelles sont les analogies que nous pouvons tirer de cette image ? En effet, Dieu avait donné des directives précises concernant la récolte de la manne. La manne devait être ramassée selon les besoins de chacun. Nous voyons ça dans le verset 16 à 18. « Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête suivant le nombre de vos personnes. » Et pas plus. Donc, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture personnelle. De la même manière, la parole de Dieu est disponible pour chaque croyant, pour sa nourriture spirituelle, chacun selon son besoin. La parole de Dieu est un outil, presque un couteau suisse, j'irais dire, un outil multifonction. Elle est capable de nous diriger, de nous encourager, de nous reprendre quand c'est nécessaire, de nous consoler, etc., etc. On peut lire Hébreux 4, verset 12, passage que vous connaissez certainement très bien, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu n'est pas seulement un beau livre, quoique c'est un beau livre, rempli de belles choses, de belles phrases, de bons conseils, d'histoires même extraordinaires. La parole de Dieu est un des moyens choisis par Dieu pour dialoguer avec nous, afin de nous faire connaître sa volonté pour nos vies. Si nous aimons Dieu, si nous disons que nous aimons Dieu, nous aimons aussi sa parole, car elle est une partie de lui-même. Nous pouvons donc utiliser la parole de Dieu selon nos propres besoins spirituels. La manne devait être aussi ramassée aux premières heures de la journée. Tiens, tiens. Car ensuite, le passage nous dit qu'elle disparaissait avec la chaleur du soleil. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais il devait être très intelligent. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, surtout le week-end. Hein ? Nous avons peut-être un petit peu tendance à nous relâcher un petit peu. Bon, premièrement parce qu'on ne met pas le réveil, puisqu'on n'a pas de travail, normalement. Et secondement parce qu'on est peut-être un peu fatigué et on prend un petit peu plus de temps pour nous reposer. Le psaume 143, verset 8 nous dit « Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté. Quoi de plus bénéfique pour notre âme que de commencer notre journée par la lecture de la parole de Dieu et la méditation. Combien nous pouvons gagner du temps en recherchant la présence et la direction de Dieu tout au long de notre journée. Combien nous pouvons éviter également les pièges tendus par l'ennemi en nous dirigeant grâce à la parole de Dieu. Ça vous est jamais arrivé de vous lever le matin, d'omettre, de méditer la parole de Dieu et de prier, et vous avez l'impression que votre journée est lourde et que vous n'arriverez jamais à faire tout ce que vous avez à faire. Alors que quand vous débutez votre journée par la méditation, la prière, eh bien, malgré toutes les activités que vous pouvez avoir dans la journée, tout se met en place, comme par miracle, et vous arrivez à la fin de la journée, tout est accompli. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a pris votre agenda en main. Le psaume 119, verset 11 vous dit « Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi ». C'est souvent aux premières heures de la journée que nous pouvons passer du temps privilégié, seul, en tête à tête, avec notre Dieu, par la lecture et la méditation de sa parole vivante. Après, il est certainement plus difficile de s'isoler, car comme on vient de le dire, les activités de la journée ont commencé avec leur cortège de stress, de courses effrénées certaines fois pour racheter le temps, parce qu'on n'a jamais le temps. On n'a que 24 heures. On aimerait bien avoir une trentaine d'heures, si c'était possible. Et même, on essaye de grignoter sur nos heures de sommeil certaines fois, parce qu'on n'arrive pas à tout faire. C'est horrible. Confions donc la gestion de notre temps, de notre agenda, à notre Dieu, qui est un coordonnateur étonnant. Mieux vaut consacrer demi-heure à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, plutôt que de se jeter immédiatement dans la course de la journée. En faisant le bilan, comme je l'ai dit en fin de journée, vous serez certainement étonné par l'efficacité de ce temps mis à part pour Dieu. La manne est donc une représentation de la parole de Dieu, n'en doutons plus. Elle est vivante, elle vient de Dieu, elle est donnée pour le peuple de Dieu. Elle doit être ramassée tous les jours, aux premières heures de la journée, selon les besoins de chacun. Une dernière caractéristique nous permet de faire la comparaison, encore une fois, entre la manne et la parole de Dieu. C'est le but pour lequel elle a été envoyée par Dieu. La manne est donnée au peuple d'Israël dans des circonstances bien particulières. Je suppose que vous avez tous compris et toute la première raison pour laquelle Dieu a envoyé la manne. Celui-ci, donc le peuple d'Israël, se trouve dans le désert où il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, et Dieu va donc pourvoir aux besoins de son peuple en utilisant des moyens, soit naturels certaines fois, comme la survenue d'écailles, même si c'est Dieu qui a dirigé l'écaille, bien entendu, sur le camp d'Israël, mais aussi en utilisant des moyens tout à fait surnaturels, comme faire jaillir de l'eau d'un rocher, ou envoyer de la manne. La manne est envoyée par Dieu, donc, avant tout pour nourrir et pour soutenir son peuple pendant sa longue marche dans le désert. 40 ans, quand même. Vous avez déjà marché pendant 40 ans, vous ? Ça prend un bout de temps. Hein. Nous pouvons lire dans l'épître de la première épître de Pierre, au chapitre 2, du verset 1 au verset 3, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » C'est vraiment une nourriture. Pour nous, il y a plusieurs pièges que nous devons éviter dans notre vie chrétienne. Mais évidemment, un des plus dangereux est de penser que nous sommes en sécurité. Bien installés dans notre vie, nous avons un travail, une famille, une maison, des enfants, une église avec plein de frères et de sœurs très gentils. Oui. Tout ceci pour nous porter à oublier que la vie chrétienne est un combat quotidien. Combat contre l'extérieur, mais aussi contre l'intérieur, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est une grave erreur que de croire que nous pouvons négliger la prière et la parole de Dieu sous prétexte que nous sommes sauvés et en route vers le ciel. C'est effectivement une vérité si nous nous sommes confiés en Jésus pour notre salut, mais la manière dont nous allons vivre notre vie est fonction de notre persévérance. Pour cela, nous avons besoin de notre manne quotidienne. Autant la marche d'Israël dans le désert était difficile et fatigante, autant notre marche de la terre vers le ciel dont nous avons parlé est fatigante et dangereuse pour nous aussi. Le psaume 119, verset 105, puisque c'est un très long psaume, vous le savez, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Est-ce que vous entreprendriez une marche durant une nuit noire, sans lune, sans vous munir d'une bonne lampe torche, au minimum? Laissons donc Dieu éclairer notre sentier par sa parole. Un autre point, sous-point plutôt. Par la manne, Dieu met son peuple à l'épreuve. C'est ce que nous avons lu. L'Éternel dit à Moïse, au verset 4, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma voie, selon ma loi. » Dieu met son peuple à l'épreuve. Souvenez-vous ce que Dieu dit à Saül dans 1 Samuel 15:3. « Va maintenant, frappe Amalek et dévouez-le par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Waouh, c'est sévère. L'ordre de Dieu est sans équivoque aucune. Et cet ordre demande une obéissance entière, bien entendu. Et nous voyons dans la suite du passage que l'obéissance de Saül est pour le peu approximative, on va dire ça comme ça, puisque non seulement il s'est gardé les bêtes les plus grasses, mais en plus il n'a même pas dévoué par interdit le roi qu'il devait tuer en premier. Voilà ce que lui répond Dieu par la bouche de Samuel. Samuel vient voir Saül, et Saül lui dit d'ailleurs « J'ai accompli la parole de Dieu » avec un large sourire. Et Samuel lui dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers » dans 1 Samuel 15:22. Par sa parole, Dieu nous donne des directives et des ordres quant à notre vie chrétienne également. Et Dieu s'attend à notre obéissance immédiate. Pour les chefs de famille, ou les mamans de famille, quand vous avez des enfants, vous édictez des règles pour la famille, sinon ça devient vite invivable. Et quand un enfant fait une bêtise, vous le reprenez. Ben, c'est ce que fait la parole de Dieu pour nous. Quand vous édictez des règles dans la famille, vous vous attendez à ce que vos enfants obéissent immédiatement. Sinon, ils vont prendre un mauvais pli. La parole de Dieu et Dieu lui-même veut que ce que nous lisons et ce que nous comprenons par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, nous le mettions en pratique dans nos vies et que nous obéissions à notre Dieu. Jacques 1, verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole » et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La manne a été un des moyens choisis par Dieu pour nourrir son peuple durant sa marche dans le désert vers la terre promise. Comme le peuple d'Israël, nous avons également besoin d'être nourris spirituellement durant notre voyage de la terre vers le ciel. C'est une question cruciale pour tout croyant. Est-ce que je me nourris quotidiennement de la parole de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable? Vous savez que Satan veille, lui, et c'est un lion rugissant. Éphésiens 6, en conclusion, nous dit, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors est-ce que nous pouvons passer de l'étude, de la méditation, de la parole de Dieu, pour écouter quelles sont les directives de Dieu pour notre vie, quel est le chemin dans lequel nous devons marcher. Dieu le sait, lui, et il veut nous le communiquer par sa parole. Prions. Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi. C'est vrai que ta parole est puissante pour nous diriger, Seigneur, dans notre vie. Nous n'avons aucune puissance, nous n'avons aucune sagesse par nous-mêmes, Seigneur. Mais ta parole est une lampe à nos pieds. Merci de nous l'avoir donnée, merci de nous avoir donné Jésus, Seigneur, qui est la parole incarnée, cette parole qui a fondé l'univers, qui nous a créés, Seigneur, et qui maintenant veut nous amener dans notre vie chrétienne vers le paradis avec toi. Merci pour chaque chose que tu mets en place dans nos vies, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.